l'info. Europe Matin Weekend, Pierre de Villeneuve.
8h15, vous connaissez sans doute. Ou encore. Mais aussi ça. Un immense plaisir, un immense honneur d'accueillir Bob Sinclair. Bonjour.
Bonjour,
c'est
bonjour
sympa
à tous.
C'est passer une tête à une heure pas très habituelle, non, pour vous d'habitude?
Mais non, c'est une idée préconçue. Je me lève très tôt. Déjà, j'ai des enfants et ensuite, je fais du sport tous les matins. Et c'est une idée préconçue de penser aussi que les DJ boivent de l'alcool, font d'autres choses. Moi, bon, je suis peut-être l'exception. En tout cas, moi, je suis.
Moi, j'en bois de l'alcool modérément.
Ah, voilà.
Attendez. En tout cas, c'est très sympa de passer à Europe 1 comme ça de bon matin. Dans 9 jours, les autorités doivent décider de votre sort. On l'a entendu dans le journal de 8h, le malaise justement de toutes ces boîtes de nuit, des DJ. Quand je dis de votre sort, c'est du vôtre, d'autres grands DJ aussi, mais du sort de ces 20 000 DJ en France qui sont parfois petits, indépendants, qui sont condamnés donc à attendre.
C'est les résidents de clubs, pas forcément des DJ qui sont des artistes aussi. Donc moi, j'ai réussi à survivre aussi grâce à mes droits d'auteur. Mais c'est les DJ et tous les gens qui travaillent dans les discothèques et dans le métier du artiste, dans les métiers artistiques et surtout qui soutiennent les artistes, qui sont là, les assistants. Voilà, c'est tout ce monde-là. Ils sont plus d'un million en France.
Il y a les stations de ski qui ont dit mais pourquoi les remontées mécaniques alors qu'on voit des TGV, des bus blindés. Il y a les restaurateurs qui ont dit mais vous savez très bien qu'il y a la plupart des contaminations se font en entreprise. Vous dites quoi?
Les stations de ski, c'est une plaisanterie.
C'est-à-dire?
Mais c'est une plaisanterie. On peut empêcher les télécabines. Mais pourquoi pas les télésièges et les tire-fesses et les téléskis? Voilà, ça n'a aucun sens, parce qu'on est seul.
Ça vous a choqué?
Mais bien sûr, c'est des décisions qui sont prises, mais comme ça, mais je ne sais pas comment on peut faire des réunions comme ça et se dire, tiens, on va dire aux gens qu'ils peuvent aller dans les stations de ski, mais sans, faut trouver des aménagements, et puis surtout les magasins de ski. Ça a été très dur pour eux.
Vous, les DJ, vous dites, il y a les boîtes en plein air, on peut faire des choses, on peut faire des aménagements, de la même façon que dans les stations de ski?
Mais je ne sais pas ce qu'on peut faire. Mais en tout cas, ce qui est assez drôle, c'est qu'il y avait cette petite anecdote sur les clubs échangistes les clubs libertins. Donc il y aura une distanciation sociale dans les clubs libertins.
Vous savez ce que nous a dit Alain Griset, le ministre concerné par cette affaire? Il nous a dit effectivement, ils sont passés un peu à la trappe parce que c'est un sujet qu'on n'avait pas vu. Il nous a dit ça il y a 3 semaines. J'imagine que depuis ils ont regardé.
Oui, ils sont considérés comme des restaurants ou des bars. C'est charmant. Je trouve ça très drôle. Donc voilà, il y a des incohérences comme ça, mais bon,
drôle et en même temps c'est tragique. On a parlé de 20 000 professionnels DJ directement. Il y a tous ces gérants de discothèques. Qu'est-ce qu'ils vous disent justement, vous qui travaillez avec tous ces gens-là?
Je suis pas en contact avec tous les clubs, les patrons de clubs, mais c'est sûr que c'est une économie qui se meurt. Ce qui est sûr, moi j'avais envie de dire aux gens. Voilà, on va fermer Spotify et on va fermer la musique, la musique,
hein,
et vous allez voir ce qui se passe si on vous coupe la musique. Donc pour vous, votre vie va changer.
Qu'est-ce qui se passe?
Ah mais la vie des gens, ils vont tous devenir dépressifs. Donc moi, si je peux pas travailler, si je peux pas faire danser les gens, c'est compliqué quand même pour tous ces artistes-là.
Bob Sinclair, pendant ce temps-là, ça ne vous empêche pas de sortir des digues, des nouveaux tubes comme celui-ci. Be Dancing avec la chanteuse suédoise Molly, à ne pas confondre avec. Alors, We Could Be Dancing.
We Could Be Dancing.
C'est-à-dire, on pourrait danser.
Mais deux morceaux qui arrivent à peu près au même moment. C'est-à-dire que quand We Should Be Dancing des Bee Gees est sorti en 76, exactement, on sortait d'une période très dépressive avec des chanteurs à voix un petit peu plus sombres. Aujourd'hui, les gens ont envie de danser. On va sortir d'une période et voilà. C'est pour ça que j'ai donné une couleur un peu disco. Festive à ce titre-là.
You should be dancing, ça veut dire tu devrais danser. We could be dancing, ça veut dire on pourrait danser. Il n'y a pas un message là-dedans?
Ben si, parce que le c'est exactement.
Alors, on pourrait, mais on peut pas danser.
C'est we could be dancing, mais c'est exactement when we could be dancing. Ouais. Quand pourrons-nous danser?
Ouais. Et alors, vous avez déclaré à nos confrères de la Repubblica en Italie, reprendre bientôt la danse guérira notre âme et notre esprit. C'est pas un peu trop? Vous êtes une sorte de chaman.
Je ne suis pas du tout une sorte de chaman. Je dis juste que voilà, pas. Ça fait des centaines d'années que les gens dansent et qui voilà, ils sont ensemble, ils partagent des moments et puis les gens se rencontrent. C'est un lieu communautaire sacré.
La guérison. Vous parliez de la guérison et ça rejoint ce que vous disiez à propos de Spotify. On va vous fermer Spotify et voir ce que ça fait.
Oui. Non, je vous disais que le lieu du clubbing est un lieu communautaire qui est très important pour moi et sacré parce que les gens rentrent dans un univers totalement différent. Ils sortent de leur quotidien, ils rencontrent des gens. Il n'y a pas de communauté, il n'y a pas de racisme, de choses comme ça. Les gens sont unis avec la musique, vont voir un DJ. Voilà, je trouve que c'est très important.
Vous le voyez comment, vous, l'été 2021 à Ibiza, dans tous les lieux où on danse jour et nuit.
Ibiza restera fermé jusqu'à la fin août pour le moment, en tout cas, pas pour les touristes bien sûr, hein, juste le clubbing, les rassemblements en plein air, je ne sais pas encore. En France, ça s'ouvre un peu puisque à Toulouse, j'aurai moi début juillet autour du 10, je crois, un festival. Bon, les gens resteront assis, mais il y aura à peu près 5000 personnes. On annonce, donc je serai en même temps le 10 à Andorre. Alors, ce qui est assez fou, parce que c'est pas loin, Andorre, donc ce sera debout. Donc, il y aura aussi à peu près 10 000 personnes.
Avec le Tour de France, je crois qu'il passe à peu près au même moment.
Ouais, exactement. J'ai aussi à Marseille un festival. Alors, Festival Delta ouvre pour 10 000 personnes, par contre, là, debout. Donc, ils ont eu l'autorisation. Et le Festival Inox à Paris, début septembre. Donc, je suis très optimiste pour cet été.
Vous êtes très optimiste et en même temps, vous avez dit tout à l'heure que parce que vous aviez des droits d'auteur, vous arrivez à survivre. Vous avez été impacté par cette crise sanitaire et économique.
Moi, j'ai eu un moment de plénitude artistique lors du premier confinement.
Ça veut dire quoi, ça ?
C'est-à-dire que quand on a beaucoup de succès, ensuite, on est appelé à faire des dates dans le monde entier. Et on est un petit peu dans une tornade où je faisais 120 dates par an. Et donc, je n'avais plus le temps d'être dans mon studio pour créer réellement. Donc là, ce confinement, j'ai été choqué. Maintenant, comme tout le monde. Mais moi, je veux rester dans la créativité. Donc, le premier jour du confinement, je me suis mis à faire des sessions live. De 14h à 15h tous les jours pendant 55 jours. Et on était ensemble avec donc beaucoup d'artistes. Et il y a eu une communication avec les gens qui étaient totalement différentes. Ces gens-là m'ont découvert à travers une musique. Voilà, la musique avec laquelle j'ai grandi.
Ça a été un mal pour un bien, donc, d'une certaine manière.
Ça a été un mal pour un bien. En tout cas, je veux pas l'appeler comme ça. Je dis, en tout cas, ça m'a permis de me renouveler. Voilà, de me réinventer artistiquement.
Je comprends que vous soyez discret, mais je m'intéresse aussi à vos finances. Économiquement, ça vous a impacté beaucoup, cette crise ?
Bien sûr que ça a impacté, évidemment. Aujourd'hui, les artistes vivent du live. La musique est quasiment gratuite. C'est-à-dire que si on a la chance de passer à la radio, oui, là, en ce moment, évidemment, là, on touche des rétributions par l'intermédiaire de la SACEM, mais les plateformes de télé, les plateformes de streaming, voilà, ne rapportent rien du tout. Donc, vraiment, c'est le live. Donc, à partir du moment où les artistes n'ont plus de live, ça devient très compliqué.
En ce moment, c'est Roland Garros. Mmh. Vous êtes un tennisman accompli.
Je n'ai aucun talent, malheureusement, mais
j'ai lu plein de choses sur vous. Est-ce que, alors, vrai ou faux, vous avez été géo tennis au Club Med.
Faux.
Vous avez été prof de tennis à la mairie de Paris.
J'ai été éducateur. Ouais, éducateur pour les petits enfants. Alors, pour des enfants, parce que voilà, de 4 à 6 ans, mini tennis, pour filer un coup de main au coach avec qui je travaillais à l'époque.
Bon, vous allez y aller un peu, Roland ?
Non, j'ai pas de place, malheureusement. C'est très compliqué d'en avoir. Il paraît que la deuxième semaine, il y aura une jauge un peu différente, donc j'espère.
En tout cas, le message est passé. Et en attendant, on peut écouter ça. Be Dancing, votre nouveau single, mon cher Bob Sinclair. Merci d'être passé par Europe 1.
Merci. De bon matin, on se revoit. Mais bien sûr, et bonjour à tous.
On peut vous demander de venir tôt le matin.
Mais bien sûr, évidemment, avec plaisir.
Dancing, dernier disque, je parle comme un dinosaure, dernier titre de Bob Sinclair, quel plaisir de l'avoir eu. Ce matin, dans un instant, la météo, le journal et le journal de Roland Garros, restez avec nous sur Europe 1.